Et nous sommes toujours en direct du festival Indélébile pour les 10 ans du festival à IPNTA pour des interviews Speedbull. Donc l'idée c'est du speed et des bulles. Non, c'est pas ça. C'était l'idée, c'est que vous vous interviewez un peu comme un speed dating et que on découvre tous ensemble des dessinateurs, des auteurs, des éditeurs qui ne se connaissent pas a priori, mais là c'est pas le cas. Ils se connaissent, les deux qui arrivent, mais moi je les connais pas. Alors présentez-vous s'il vous plaît.
Allez, vas-y.
Alors moi c'est Jules Canoué. Je viens de Gironde, mais j'habite dans le Lot. Enfin, je travaille dans le Lot.
Ça a d'accord. Un intérêt. Et toi?
Moi c'est Mathieu, du coup mon nom d'illustrateur c'est Freak City et je suis venu ici pour représenter notre collectif d'édition Mondo Zéro, basé à Bordeaux.
Voilà. Ah, et vous connaissez de Bordeaux ?
Mais non, justement, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, mais c'est pour ça que je précisais que je venais de Bordeaux, c'est que moi c'est quelque chose qui m'a touché. J'ai découvert l'auto-édition et l'édition indépendante en Belgique, à Paris et ensuite à Toulouse. J'avais jamais compris vraiment qu'il y avait une scène à Bordeaux et j'ai découvert avec le boulot de Mathieu et de Duche et tout ce groupe-là, en fait, de loin.
Mais une fois que tu étais parti, du coup.
Ouais, une fois que j'étais parti. Et ça me fait super plaisir de les connaître maintenant parce que c'est agréable de se dire que de la ville d'où tu viens, il y a des trucs qui... Enfin, il y a des initiatives importantes comme Disparate et tout ça.
Ouais, c'est vrai. Ah, c'est souvent comme ça que ça se passe, de toute façon... Nous, on connaissait le boulot de Jules via les publications qu'il avait eues dans des revues collectives, en fait, sans le connaître personnellement. Et en fait, on apprécie le travail de plein d'artistes qu'on n'a jamais rencontrés. Et après, c'est souvent l'occasion de les rencontrer de visu et de pouvoir échanger dans les festivals, dans les salons de micro-édition. Donc là, c'est le cas et c'est plutôt cool, quoi.
Oui. Là, c'est votre première rencontre. Vous n'étiez pas rencontré avant?
On s'est rencontrés hier, en fait.
Ouais.
Je sais pas si on s'était déjà parlé sur un autre festival.
Non, je crois pas.
Hein. Oh là là,
festival des rencontres. Je vous laisse essayer de décrire. C'est un exercice pas évident, mais l'idée, c'est d'essayer de décrire un petit peu le travail de l'un et de l'autre. Donc, pour les auditeurs, toi, je vois que tu as ramené un petit fanzine. C'est pas un petit fanzine. D'ailleurs, ça ressemble plus à une belle revue. Presque un beau livre. Je te laisse le décrire peut-être, et puis toi, si tu veux poser des questions, voilà.
Okay. Du coup, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle La Bagarre, puisque c'est le premier recueil d'illustrations collectives qu'on a édité avec Mondo Zéro. Juste pour situer un peu le projet, c'est qu'on a commencé Mondo Zéro parce qu'on était quatre illustrateurs bordelais qui partagions souvent des stands lors de salons de micro-édition. Et ça, on a trouvé ça normal en fait de le structurer un peu plus et d'en faire une espèce d'assaut informel pour produire des recueils. Et pour ce numéro-là, en fait, on l'a ouvert en se faisant vraiment plaisir pour inviter des illustrateurs à produire un dessin sur un thème collectif. Et nous, on y est vraiment allé au coup de cœur, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment invité les illustrateurs qu'on aimait. Et on a eu quelques refus pour des questions de disponibilité ou autre, mais en gros on a vraiment réussi à faire ce qu'on voulait et ça nous a donné des idées pour la suite, essayer de créer une série comme ça pour inviter régulièrement des dessinateurs à produire sur des thèmes qu'on va définir et essayer de lancer une petite série de recueils comme ça en fait, d'en produire peut-être un par an en fait dans ce format là quoi, en tout cas. Donc voilà, là c'est La Bagarre, donc c'est... En gros, il y a une cinquantaine de pages sur l'art de la bagarre, la baston, la châtaigne, tout ce que tu veux. C'était... Voilà. Et il y a des façons assez surprenantes de l'interpréter d'ailleurs, donc c'est assez varié. On n'avait pas de limite ni de contraintes sur les techniques.
Mm-hmm.
Et on a sélectionné aussi les artistes parce qu'on savait que ça allait être super varié au niveau du rendu. Et on est super contents qu'ils aient joué le jeu, quoi.
Cool. Et ça date, tu disais que c'était le premier de...
Celui-ci, on l'a sorti, donc du coup, c'est décembre 2017.
Ah ouais. Oui, donc c'est récent,
ouais,
c'est un projet nouveau.
Voilà. Mmh.
Mais avant ça, déjà, tu participais à des projets d'auto-édition ou de micro-édition ?
Ouais, on a toujours fait des... Ça fait plusieurs années qu'on produit quand même des recueils d'illustrations ou des sérigraphies, du print entre nous. Mais on l'a vraiment formalisé sous le nom Mondo Zéro avec mes trois acolytes au printemps dernier en fait. Ça nous donnait plus de justification pour apparaître dans les salons en tant que collectif en fait et pouvoir se proposer.
Il y avait Royal Béton quand même.
Voilà, Royal Béton, c'est la moitié de Mondo Zéro, mais c'est ce qu'on faisait avec Duche justement, qui était plus de l'ordre de la fresque ou de la performance en fait, de faire des ateliers avec les enfants aussi, ce genre de choses quoi.
D'accord.
C'était vraiment juste une évolution logique et naturelle en fait. On se fréquentait tous, on se voyait, on avait les mêmes goûts, les mêmes passions, notamment via Disparate à Bordeaux, via le salon, le Zine Fest, etc. Mmh. Donc en fait,
ça s'est fait naturel.
Vraiment, c'était logique quoi. Cool. À l'image de ce qu'on voyait, ce qui se faisait ailleurs aussi et qui nous inspirait pas mal en fait.
Et on n'est pas tout à fait sur une production do it yourself là. Voilà la couverture couleur. Enfin, c'est une impression offset.
Non, là c'est pour l'impression, c'est du numérique.
Ah oui, pardon.
C'est numérique, mais après voilà, c'est papier glacé avec un dos carré collé. On a essayé de le soigner pour se faire un peu plaisir. Et puis voilà, on a collé un peu le sticker. Après, on aime bien les petits côtés un peu comment dire, un peu goodies qui nous renvoie à l'enfance en fait, aux années 80-90 avec tous ces albums de cartes à collectionner, tous les dessins animés un peu débiles qu'on a regardés, les trucs plein de couleurs et tout. Et c'est un peu l'esprit qu'on essaye de retranscrire avec Mondo Zéro aussi quoi, d'être un peu fidèle à ce qu'on aime et ce qu'on tire de notre enfance quoi.
C'est donc, carrément ce qui ressort en fait, c'est, enfin, moi de l'extérieur je vous vois carrément comme une... Enfin, c'est pour ça aussi que la bagarre il est intéressant, c'est que j'ai découvert tout un tas de choses que vous aimez et que vous mettez en avant, et j'avais pas encore accès à ça parce que Mondo Zéro, vous êtes une sorte d'école de dessinateurs, il y a une comment dire, un truc commun qui est ça, le retour à l'enfance, qui est d'ailleurs assez génial dans le sens où moi c'est un truc qui comment dire, j'avais un peu du mal avec une tendance comme ça dans l'auto-édition et de vous voir le faire, mais vous le faites de manière tellement comment dire, tellement répétée et tellement sérieuse que à la fin en fait ça me renvoie moi à des trucs je disais à Duche ou à l'obsession pour E.T. ou des trucs comme ça, et c'est cool, et même du coup de découvrir aussi la manière dont vous le vivez personnellement, ou je sais plus lequel de vos potes a des collections de Schwarzenegger hallucinantes.
Ouais, bah en fait c'est l'idée, c'est qu'on a juste voilà, on a juste mis sur papier des choses qu'on avait, qu'on... Concrètement, voilà, c'est cette espèce de petite collection de jouets, de petits goodies qu'on avait depuis l'enfance, ou des espèces de sessions ciné un peu clandées qu'on fait à la maison, plateau télé, pizza avec des nanars, ou alors du blockbuster. En fait, c'est un truc qu'on avait en commun tous les quatre et qui nous a permis un peu construire une trame en fait picturale autour de Mondo Zéro, qui justifiait le fait qu'on puisse dessiner tous ensemble, des fois à 8 mains, sur un projet cohérent. En fait, quoi,
mais c'est chouette parce que de l'extérieur en tout cas ça devient comme une sorte de, enfin c'est un art de vivre quoi. vous collectionnez des trucs des années 80, vous les dessinez, vous éditez en reprenant les codes, enfin du coup ça va beaucoup plus loin que juste un petit jeu de référence, c'est carrément je sais pas, moi je trouve ça assez assez fou de vous voir produire beaucoup comme ça.
Je suis content que ça te paraisse comme ça en fait. C'est un peu l'idée qu'on a, mais c'est sans forcer le trait non plus quoi.
Non, mais du coup après dans la bagarre, le fait d'avoir Paul Edouard ou des mecs comme ça qui pourraient avoir une référence un peu dans leur dessin, mais lui il est plus barré dans quelque chose de très personnel et comment dire, il s'extrait un petit peu justement de la référence, mais c'est intéressant de voir ces choses-là revenir aussi au milieu de vos boulots. Et
il y a des gens justement comme Paul Edouard, c'est l'exemple parfait que tu as pris, c'est qu'il fait ses... lui il produit ses fanzines à lui sur des thématiques super violentes qui rentrent complètement dans le cadre de ce qu'on a développé avec Mondo Zéro. Et pour nous, c'était juste logique, en fait, vraiment de l'intégrer là-dedans. Même si lui, il est, comme tu dis, il va moins faire de références ouvertes qu'on le fait nous.
Ouais.
On sent la substance derrière. On sent que la référence, elle est commune. Et pour nous, c'était logique, en fait, de l'intégrer là-dedans.
Mais après, ce qui est marrant, c'est que je crois que Paul Edouard, en fait, ça tient beaucoup plus du traumatisme personnel, le fait qu'il traite de ces thématiques-là, que justement de la passion de la référence et de ce que j'en ai compris. J'en avais parlé un petit peu avec des gens qui avaient un peu.
D'accord.
Mais du coup, c'est ça qui est intéressant dans la bagarre, c'est de se dire il y a quelqu'un qui va parler de sa passion pour le film de baston et à côté quelqu'un qui va te parler de sa peur de la violence, par exemple.
Exactement. Et à la fin, justement, on avait terminé le recueil par la planche de Lisa Mouchet,
Ouais.
Et en fait, qui nous a produit quelque chose de super poétique et pas du tout à des kilomètres de ce qu'on pouvait attendre en fait, au premier degré sur la bagarre. Elle nous a fait en fait
une après-bagarre.
Ouais, la meilleure conclusion qu'on pouvait avoir pour le recueil, qui est beaucoup plus fin et subtil que le contenu, on va dire. Et pour nous, c'était parfait d'avoir un truc comme ça. C'est ce qu'on attendait aussi de Lisa Mouchet. Donc, tu connais ce qu'elle fait, c'est logique, c'est toujours très fin et poétique comme ça, super beau.
Okay.
Ouais, voilà.
Non, mais c'est chouette. Un beau projet.
Et du coup, et toi, alors qu'est-ce que tu fais? T'as ramené aussi des petites choses à nous présenter?
Ouais, du coup. Comment expliquer ça? Le dernier fanzine que j'ai fait un fanzine pour Angoulême. C'est le premier travail que j'ai fait. Je disais, du coup, je vis à Cajarc. Paumé dans le Lot depuis quelques mois, et ça c'est le premier boulot que j'ai fait là-bas, et c'est drôle, justement c'est aussi un retour vers des thématiques d'enfance, de la construction. J'ai eu l'impression en faisant ce fanzine que j'avais la possibilité technique maintenant de faire des choses qui me frustraient quand j'étais gamin, où je me disais je ferais bien ça, ça et ça, et j'avortais tout le temps mes projets. Je sais pas, c'est peut-être le fait, j'ai grandi à la campagne, j'ai passé beaucoup de temps en ville, et le fait de revenir au milieu de la forêt et des cailloux, ça a dû créer, je sais pas, une connexion avec l'adolescence, et du coup je suis reparti dans des projets que j'avais laissés en plan depuis que je suis petit, quoi.
Ah, oh, c'est rigolo ça.
Et du coup, je sais pas, il y a quelque chose d'assez serein là-dedans qui me plaît beaucoup.
Il y a une grosse présence d'éléments naturels, on a déjà remarqué ça. Il y a beaucoup, t'es dans un traitement en fait de la texture, dans certaines planches, il y a beaucoup de liquide, et tu dessines ça de manière super minutieuse. Je sais pas si c'est au rotring en fait.
Ouais,
tu rotring.
Mais en fait je fais tout au rotring, ce que je te disais même tout à l'heure, quand il y a des coups de pinceau, c'est je dessine les coups de pinceau au rotring.
Voilà.
Mais c'est quelque chose qui vient justement de la BD américaine, où j'avais une passion pour le fait que le dessin soit totalement froid. Je me suis rendu compte après que ça venait un peu d'une incompréhension. Moi, je pensais que le fait que le dessin soit froid chez Charles Burns, Daniel Klaus ou Chris Ware, c'était un choix esthétique purement. Et je l'ai pris comme un choix de dessin. Et j'en ai fait une manière de dessiner. Et je me suis rendu compte après coup qu'en fait, pour eux, c'était juste un outil qui servait le récit. Mais au final, j'ai gardé cette manière de faire. Et j'aime bien ça, l'idée que chez eux, c'est un dessin froid qui, une fois qu'on rentre dans l'histoire, prend tout son sens. Moi, je l'utilise plus pour du dessin pur, où je me dis, dans l'idéal, ça serait des dessins à plusieurs couches, où plus on revient pour les regarder, et plus il y a des choses qui apparaissent, et d'autres qui disparaissent, et on peut avoir, visuellement, des éléments qui viennent en avant et en arrière, ou d'autres qui apparaissent comme quelque chose d'illustratif, alors qu'ils étaient abstraits 5 minutes avant. C'est mon idéal, hein. Je sais pas si ça, si ça fonctionne, mais sans trop penser le truc, j'aimerais pouvoir avoir ces différents niveaux comme ça, de compréhension.
Il y a une approche quasiment clinique, moi je trouve, dans ton travail, sur certaines planches qui paraissent justement très, très 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 précises en fait. Il n'y a pas trop de place au hasard, je trouve, en fait. Le trait est très régulier.
Disons que j'organise, en fait il y a de la place au hasard dans la construction, mais j'organise tout le temps, je peux pas m'en empêcher.
C'est méthodique, très méthodique en fait dans la construction.
Mais du coup, dans cette méthode, il y a aussi du hasard. Par exemple, il y a tous ces personnages là avec les traits désordonnés, c'est un crayonné très rapide. Ouais. Et ensuite je viens ancrer de manière précise chaque coup de crayon désordonné qui m'intéresse. Comme dans les jeux où on fait un gros gribouillis et ensuite on vient retrouver le dessin à l'intérieur. Donc en fait, même quand j'utilise le hasard et la rapidité, il y a toujours une phase très lente et un peu coincée comme ça. D'accord. Derrière, pour réorganiser le hasard.
Mais ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, c'est qu'aussi tu bossais à échelle 1.
Ouais.
C'est-à-dire que par rapport à la taille de ton édition, ton dessin.
Mais ça, c'est légèrement rétréci, mais j'ai dessiné en A5, donc oui, c'est quasiment ça.
Ok. Ça, c'est quoi? C'est un choix que tu fais, ou c'est plutôt naturel? Tu peux pas t'en empêcher vraiment? Tu bosses
Non, mais pareil, ça fait partie de choix. Après, moi, j'ai pas vraiment. c'est bizarre parce que je bosse avec beaucoup de principes, mais je suis prêt à les casser. C'est juste que c'est des principes que je me suis mis il y a quelques années. Et tant que je considère que je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon principe, que je ne l'ai pas étiré suffisamment pour en extraire toute la substance qui m'intéresse, ben je reste un peu calé dessus. Donc la réimpression à échelle 1, le dessin à échelle 1, c'est aussi une manière de maîtriser. Je ne conçois pas le dessin comme un dessin sur une feuille que je donne à quelqu'un qui ensuite, lui, s'occupe d'en faire un livre. Je conçois le dessin parce que ça va être tel type de livre à la fin. Et c'est une des manières de garder du contrôle, c'est de le faire à échelle 1 pour les revues, par exemple. Pour Superstructure, par exemple, on parle beaucoup de ça. J'avais fait un poster avec Choukri, qui est l'éditeur imprimeur de Superstructure. Et on parle de ce genre de choses. Enfin, ça a vraiment il a imprimé mon poster en l'agrandissant une fois. Du coup, en homothétie, c'était, je l'ai dessiné en A3, il l'a imprimé en A2.
D'accord.
Moi, j'avais besoin de savoir qu'il allait faire ça, okay, pour comprendre comment je bosse mes trames. Et si je fais une trame désordonnée, est-ce que je la bosse dans telle ou telle direction? Parce que en plus gros, ça... Enfin, j'ai besoin que ça reste propre et de savoir à peu près où sont les erreurs.
D'accord.
Et de laisser les erreurs qui m'intéressent et d'effacer les autres. Enfin, c'est dans ce sens que j'aime bien que le dessin ait plein de couches, qu'il soit autant technique que dans le sens, dans le ressenti, dans la lumière ou dans la matière.
Okay.
Tout le monde puisse y trouver son compte, en fait.
Okay. Il y a une question quand même assez importante de contrôle, en fait, de maîtrise,
ouais.
Du format, de la technique, le fait que ça soit tout, enfin, ce que j'ai vu de ton travail, t'es tout le temps en noir et blanc et donc au retrait,
ouais.
Les trames qui reviennent au pointillisme comme ça,
ouais.
le côté chirurgical de la ligne claire, il y a vraiment cet aspect on te sent super concentré et qui veut vraiment maîtriser les choses, quoi, en fait, ça dépasse pas.
Ouais. C'est une maladie que...
Ouais, mais voilà, c'est...
Ouais, pour le moment, j'ai pas guéri de ça. Non, parce que c'est naturellement, enfin, on sait tous qu'il y a des choses qu'on applique à notre travail qui débordent sur notre vie et inversement. Et
ah,
du
bien
coup,
sûr.
Ce truc de lâcher prise, par exemple. Ouais. Okay. Mais ouais, j'ai toujours besoin d'un peu de contrôle. D'un autre côté, je pourrais dire que dans ton travail aussi, il y a un besoin de contrôle.
Ouais.
Enfin, parce que c'est ça aussi qui est marrant, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, mais on a quelque chose en commun. Enfin, moi, les premières fois, c'était il y a longtemps d'ailleurs, bien avant Mondo Zéro et tout ça, que j'ai vu tes dessins. Ça m'a touché parce que ça ramène naturellement à une école américaine.
Et c'est ce qu'on disait sur le travail qu'on a pu observer chez Martel, là, de Charles,
ouais,
Burns ou de Chris Ware, ouais, ou de Daniel Close. C'est de pouvoir analyser leurs planches, en fait, originales,
ouais,
et de se rendre compte que... Moi, je trouvais ce côté chirurgical chez Burns qui était hyper discipliné, en fait, qui est un espèce de besoin irrépressible aussi de cadrer mon illustration, mon travail. J'imagine,
ouais,
que pour toi, c'est pareil aussi parce que c'est peut-être un trait de caractère, en fait, qui ressort,
bah ouais,
dans,
ouais,
le dessin.
Hein,
c'est inné, c'est pas, ouais, c'est un peu dur des fois de se remettre en cause, de sortir de ce confort-là pour se,
ouais,
se confronter à autre chose. En tout cas, ouais, le lâcher prise, comme tu dis, c'est super important.
Bah, c'est pas évident. Enfin, moi, j'ai les seules fois où je lâche prise, c'est en contrôle total. Genre, je dessinais au marqueur très très rapidement, et en fait, je faisais 10 dessins par jour, tous les jours, au même format.
D'accord.
Numéroté. Et je me suis rendu compte après, je me suis dit, ouais, c'est pas...
Un lâcher prise très,
ouais,
très ordonné, très encadré, ouais, en fait. Ouais.
Mais non, mais c'est en fait, je crois qu'en ayant nos caractères dans le dessin, c'est une manière d'aller petit à petit vers d'autres choses, c'est de garder un contrôle peut-être toujours sur le truc.
Et c'est ça qui est marrant, c'est ce que tu disais, c'est de constater que par exemple, tu vas avoir ton dessin au rotring en ligne claire qui est très... très maîtrisé, et de se dire, ah ben là il est venu intervenir au pinceau là-dessus, quelque chose de beaucoup plus gestuel, et tu dis que non, en fait, effectivement, ton travail au pinceau, c'est un travail de contourage,
ouais, ouais,
au rotring que tu viens remplir et qui donne l'illusion d'un geste plus libre au pinceau, mais pas,
ouais,
du tout, en fait.
C'est ce truc justement de tous ces dessinateurs américains qui sont passionnants parce que en fait, ils sont loin, qu'ils ont fait beaucoup de choses, que dans les histoires qu'ils racontent, c'est très profond, et du coup, je pense que ça nous a beaucoup touchés, et que du coup, leur dessin nous apparaît comme quelque chose d'un peu inexplicable. Pourquoi est-ce que c'est aussi propre? pourquoi est-ce que, enfin, je sais pas, des manières de faire. Moi, j'adore, outre le ce que veut dire le dessin et tout ça, juste la technicité du truc. C'est pour ça que je te dis la manière dont tu dessines, toi, et qui est directement liée à ça, est super intéressante. C'est le fait de faire briller les bords de visage comme si les personnages étaient tout le temps pris en photo dans des studios, ouais. Et qu'il y avait un contre en lumière bleutée, ce genre de truc.
Clairement, ouais.
C'est intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que toi, tu l'as fait basculer dans une culture qui est plus punk et rock'n'roll, et que ça correspond. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'avais vu dans. Je sais pas, c'était dans Noise Mag.
Ouais.
Il y avait un article sur ton boulot où il y avait pas mal de vinyles et tout.
Ouais.
Bon, après, c'était des groupes que je connais pas, mais j'avais la sensation que c'était ce.
Complètement. Mais ça, c'est parce que c'est juste la transposition d'une pratique de dessin dans un milieu dans lequel j'évolue et pour lequel c'est logique de faire ces choses-là, en fait.
Bah ouais, mais ça marche étonnamment bien. Enfin, c'est comme si ça avait été si ton dessin avait été prévu pour ce truc-là.
C'est ouais. Bah c'est vrai que sans être calculé, c'est assez logique au final.
Bah ouais.
D'évoluer dans ces milieux et de produire des pochettes, des flyers, des t-shirts, je sais pas quoi, avec ce trait qui correspond bien avec, mais peut-être que c'est ce milieu-là qui a forgé, qui a façonné un peu ce trait aussi. Enfin, j'ai tendance à croire que ça marche dans les deux sens, en fait.
Ouais, c'est possible. C'est possible, mais après, le fait que tu bosses avec Mondo Zero, il y a quelque chose de très actuel dans justement la reprise des années 80-90, plus cette scène-là. Enfin, c'est la rencontre de plein d'univers, j'ai l'impression, qui font que que ton dessin dans certaines applications paraissent, enfin, je parle de ton dessin en particulier, ouais. À toi, paraît complètement à sa place. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est.
D'accord.
Ça m'a fait souvent ce truc-là, de me dire, ou quand j'ai vu que tu avais dessiné pour Vice ou Noise Mag ou quoi, c'est.
Ouais,
comme des univers qui avançaient en parallèle et qui se sont enfin rencontrés, et c'était quand même logique que ça se rencontre. Quoi.
Ouais. Après, le fait est qu'aussi dans le milieu des musiques indées, voilà, punk, noise, etc.,
ouais.
Et dans l'édition, il y a beaucoup de gens qui ont un même type de parcours aussi, c'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de, comment dire, de commanditaires d'affiches qui étaient directeurs artistiques de revues ou autre chose, en fait, qui avaient un énorme parcours dans les scènes DIY indées, qui avaient eu un label, l'expérience de,
okay.
De groupe de musique. Et qui du coup avaient la compréhension des références et du langage immédiat, et du coup, pour eux c'était vraiment naturel de faire intervenir des gens comme moi,
ouais.
Puisque les parcours et l'univers, qu'ils soient esthétiques ou musicales, étaient communs, en fait, étaient logiques,
okay.
Et donc il se trouve que là ça permettait de bosser sur des projets éditoriaux ou autres qui étaient nouveaux pour moi, mais qui en fait avaient une trame commune avec...
Okay.
Le client, enfin en fait l'interlocuteur que j'avais, quoi.
D'accord. Et par exemple, comment il s'appelle ce petit label j'ai complètement.
Un label pour lequel j'ai bossé?
Je sais pas si t'as bossé pour eux, mais ça me paraît faire partie d'un même univers. Le label de Jean-Philippe. Je sais que Franek il connaît. Si c'est. Merde, c'est.
Je sais qu'il y a
Forever Pavot,
de Born Bad Records.
Born Bad.
Il y a Born Bad et Teenage Menopause qui, pour les avoir discuté et bossé avec eux, apportent un soin particulier à l'esthétique de leur disque, en fait. Ils ont ce choix de faire travailler des illustrateurs issus de ce milieu et qui partagent toujours des connexions avec des groupes, des scènes garage, punk, tout ce que tu veux, etc. Ce qui fait qu'au final, quand on prend un peu de recul sur les disques de Born Bad, ça se tient, c'est super cohérent sur l'ensemble de leur production, toutes ces pochettes qui reviennent, qui sont toujours illustrées avec soin. Il n'y a aucun hasard vraiment là-dedans.
Mais c'est hyper cohérent, et en même temps, justement, les artworks de Forever Pavot, ils sont quand même très surprenants. Tu vois, c'est comme je te disais, l'utilisation à certains moments de ton dessin. On se dit, si ça avait été utilisé comme ça, peut-être que ça resterait un peu trop classique, et puis d'un coup de faire une tête en gros sur un vinyle, ça prend une autre dimension. Et moi, Forever Pavot, alors que ça pourrait être classique, ça m'a quand même vachement marqué comme manière de, tu vois, d'utiliser, et puis de prendre sa tête à lui, et ensuite la tête d'une petite fille qui lui ressemble. Enfin, c'est des trucs hyper simples, mais c'est assez chouette de se rendre compte qu'il y a des finesses qui font que on a la sensation d'avoir déjà vu ça. et en même temps c'est pas sûr non plus quoi, c'est surprenant en même temps.
Ah, c'est ce que tu dis, c'est le décalage entre le ce que tu attends d'un, ouais, d'un travail d'illustration et puis la finalité de son existence, en tout cas, ouais, le support sur lequel il va imprimer. Mais du coup ça me permet de rebondir sur ce que tu as amené le deuxième recueil avec, ah ouais, pour le travail de reliure.
Ah ouais, ouais.
Et justement là c'est pareil, on est un peu surpris quand on consulte l'édition de voir ton travail dans ce type de recueil et de reliure. Du coup je t'invite à expliquer pourquoi.
Bah ouais, ouais, justement, moi c'est on a fait ça avec Paula Saint-Hilier qui est relieur d'art. On dit pas relieuse, c'est bizarre, mais je sais pas pourquoi elle veut pas qu'on dise relieuse. Paula, elle fait de la reliure de création, donc elle fait un bouquin en 3 mois. Ça c'est payé très cher et c'est que des matériaux. C'est du travail du cuir et tout ça, enfin, c'est très minutieux et c'est un travail d'artisan. Et on est potes depuis longtemps. Et du coup, moi j'ai toujours regardé en coin sa pratique qui est dans un milieu de collectionneurs. Et puis le milieu de reliure parisien, c'est un tout petit milieu un peu, comment dire, où il y a peu de portes d'entrée finalement. Et elle a toujours eu une observation et un œil sur ce qu'on faisait avec d'autres potes dans le collectif. Et puis. Et les fanzines qu'on pouvait produire, la manière dont on faisait les choses en photocopie et tout ça. Et il se trouve que dans notre collectif, c'est marrant parce qu'on s'est toujours très bien entendu, mais je crois qu'on était les deux extrêmes. Il y a un moment où dans le collectif on était plus de 20 et moi j'ai jamais voulu lâcher la photocopieuse. J'étais le seul quasiment à rester calé là-dessus. Je voulais surtout pas toucher ni à la sérigraphie, ni à la RISO, ni quoi que ce soit. Je restais toujours en noir et blanc sur la photocopieuse. Et elle est devenue assez rapidement professionnelle dans le monde de la reliure d'art. Et donc c'était l'extrême inverse du livre ultra luxueux et tout ça. Et il se trouve qu'en fait on s'entend très très bien et que les gens sont partis petit à petit du collectif et qu'on s'est retrouvés là à 3, dont nous deux.
Ouais.
Et que du coup CSH, c'est nous deux, on travaille là-dedans. Et donc naturellement le défi en se retrouvant à deux, c'était de se dire on va essayer de produire des objets, des séries d'objets qui sont la rencontre de nos deux univers et comprendre comprendre qu'est-ce que c'est un livre, qu'est-ce qu'on attend d'un livre. Par exemple, on s'est rendu compte tous les deux qu'à un moment donné on attend d'un livre peut-être qui donne la sensation d'un livre. Et des fois, on attend aussi qu'il ressemble surtout pas à un livre.
Ouais.
Là, le fait que le dos se détache totalement et se tienne pas, moi, je suis hyper content de ça parce que je me dis, quand on le prend en main, on n'a pas la sensation qu'on peut avoir avec autre chose. C'est là où le côté de hasard, où la maîtrise a ses limites, c'est que j'aime bien le truc qui va foirer dans tout un projet maîtrisé. Le petit truc qui foire, en général, c'est ça qui rend la chose bancale. Et qui fait qu'on a une sensation d'à côté, quoi. Mmh. Et c'est elle cherche ça aussi. On a cherché ça tous les deux ensemble et je suis super content de bosser avec cette fille parce que.
D'accord.
Enfin, elle est très très ouverte. C'est une passionnée de graphisme, de typographie, de tout un tas de choses.
Mais du coup, ça amène ton travail que tu décrivais comme assez, je dirais pas conservateur, mais tu vois, tu veux te cantonner au noir et blanc à la photocopieuse. Sur un travail qui va être présenté dans une vraie niche, en fait, la niche des collectionneurs de reliures d'art. Et toi, tu vas importer ton travail d'édition, donc de fanzina noir et blanc, là-dedans, et essayer de trouver une espèce de trame sur la mise en forme, à proprement parler, du livre, pour pouvoir faire une espèce de crossover, on va dire, de vos deux pratiques. Et l'importer via la reliure dans le milieu de la du salon de la reliure, je pense, des petites.
En fait, c'était pas l'idée, c'est pas d'importer ou quoi, c'est vraiment d'essayer de tenter dans plein de milieux. Là, j'ai la chance d'avoir une super bonne pote qui est dans ce milieu-là et qui a envie de tester des choses avec moi. Et avant qu'on bosse ensemble, je considérais qu'un truc qui coûte plus de 3 euros. C'est n'importe quoi. Enfin, je passais 2 mois à faire des fanzines que personne ne voyait, et je les vendais 3 euros l'exemplaire. Tout le monde se foutait de moi, même mes potes qui vendent des fanzines pas chères, parce qu'ils me disaient c'est ridicule de vendre des choses aussi peu chères vu le boulot que tu y mets. Ça, c'était un de mes principes. Et puis du coup, elle est arrivée et je me suis dit ok, bon, on va aller complètement à l'inverse. Et là, on a fait un bouquin qui à la fin coûte 150 euros. Plein de gens ne comprennent pas pourquoi il coûte 150 euros. Mais moi, ça m'intéresse. ça m'intéresse en fait toutes ces questions-là. Je ne conçois pas d'avoir un pied dans l'indépendant si c'est pas pour remettre en question les codes.
Bien sûr.
Il y a rien qui me fait plus peur que les codes de l'indépendant. Parce que je me dis en fait on est là pour être libre et on est tous libres de la même manière dans la même direction. Ça me déprime complètement. C'est beaucoup moins le cas. Il y a eu, j'ai l'impression, une période il n'y a pas longtemps où c'était un peu trop codifié. Là, plus on avance et plus ça commence à partir dans tous les sens. Et c'est génial. En fait, moi, je demande qu'une chose, c'est qu'on remette en question. Là, il y a un sérigraphe qui m'a contacté à Paris. Et j'avais décidé, moi, que la sérigraphie, ça ne m'intéressait pas. J'ai passé une semaine avec lui. On a sniffé des solvants pendant 5 jours. C'était génial. Non, mais c'était excellent parce que je me suis rendu compte qu'un gars qui fait de la sérigraphie, des grandes images avec des grands aplats de couleurs et tout ça, qui a un truc qui ne m'intéresse pas au premier abord, en fait, il se trouve qu'il a la même vision du travail que moi et de la recherche. On a des boulots très différents, mais on s'est retrouvés sur quelque chose. Et en fait, bah ouais, je crois que le seul intérêt, c'est d'aller le plus loin possible de ce qu'on fait en permanence, quoi, pour faire des sauts. Après, je garde la contrainte du noir et blanc, c'est juste parce que j'ai toujours pas fini de travailler là-dedans, quoi.
Bien sûr.
Donc je garde cette contrainte, j'essaie de l'emmener un peu partout avec moi, et puis ensuite je verrai.
Mais chez toi, c'est par la rencontre que ça se fait, puisqu'évidemment là, la reliure, ouais, c'est par le contact de quelqu'un qui était dans le milieu de la reliure.
Ouais.
Et la sérigraphie, c'est parce que tu as été invité à rencontrer l'atelier. Mais du coup, de ta propre démarche, t'es peut-être, comme tu dis, trop occupé à terminer d'explorer ta technique et ce que tu as encore à trouver dans ton trait, dans ton dessin en noir et blanc, pour avoir peut-être le besoin de sentir de toi-même, de t'en échapper et d'aller.
Bah en fait, ces rencontres, je les provoque aussi, parce que là, je dis, c'est Maxime du coup qui m'a contacté, mais une fois sur deux, c'est moi qui vais vers quelqu'un d'autre. D'accord. C'est juste que tout seul, je suis occupé à aller de plus en plus profond dans ce que j'ai déjà commencé à travailler, et ensuite j'ai des. Bah, j'aime bien fonctionner par duo, en fait plus de 3 ça me met un peu mal à l'aise, mais j'ai des duos de travail un peu partout. Okay. Y a un pote qui fait de la soudure qui est. Enfin, mes deux duos de travail les plus importants, c'est mon pote Victor qui fait de la soudure et Paula qui fait de la reliure.
D'accord.
Et on cherche ensemble. Enfin, moi j'amène ma manière de bosser, eux ils amènent la leur. Et puis des visions différentes de la vie. Mais ouais. Ouais, le travail par la rencontre.
C'est ce qui permet d'ouvrir des nouvelles portes sur ton travail, j'ai l'impression, en tout cas. Quoi.
Bah ouais, carrément.
Alors je vais vous inviter du coup à poursuivre la discussion au niveau des tables avec peut-être les gens aussi qui viendront nous rejoindre pour découvrir votre travail. On est toujours à Indélébile en direct sur ondecourt.fr, la web radio du libre. Et du coup, toi on peut te découvrir, on peut découvrir ton travail. Tu es dans. Du coup, tu as une table
en face du bar.
Ah bah oui, c'est bien ça, on peut pas te rater. Et toi, du coup, tu es où?
On est dans le coin IPN, dans l'espace IPN.
Voilà, donc c'est tout près de la gare, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
Merci.
Merci.